Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, une courbe qui monte, celle des hauts salaires. Chez Renault, le groupe paye décidément très bien ses cadres, plus 15% l'an dernier. Information France Inter à suivre dans un instant. Dans ce journal également, reportage dans les pas de Marine Le Pen en campagne à Mayotte, la présidente du Rassemblement National qui a trouvé là-bas un moyen facile de nourrir son programme anti-immigration. Dans l'actualité, aujourd'hui, l'arrivée de la réforme de la fonction publique devant le Conseil des ministres. On parlera aussi d'un nouvel essai thérapeutique pour soigner les addicts aux jeux d'argent et de militants qui n'en peuvent plus des pubs envahissantes.
La journée sans plastique sur Inter, invité d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50, le PDG de Système U, Dominique Schellcher.
France Inter.
Et que les gros salaires de Renault lèvent le doigt.
Et ils sont assez nombreux chez le constructeur automobile français. C'est en tout cas ce que révèle le bilan social annuel de l'entreprise qui sera présenté aujourd'hui au syndicat et que France Inter s'est procuré en exclusivité. Renault a été très généreux avec ses meilleurs cadres en 2018. On le savait avec Carlos Ghosn, mais là c'est confirmé. Les plus hauts salaires ont perçu l'an dernier une confortable augmentation, ce qui n'est pas du tout du goût des syndicats. Les précisions de Maxime Debs.
La rémunération des 10 plus hauts salaires chez Renault a augmenté de plus de 15% l'an dernier, chiffre qui passe plutôt mal auprès des représentants des salariés, sachant que dans le même temps, le salaire moyen, toutes catégories confondues, cadre, ingénieur, ouvrier, a lui stagné. Fabien Gache de la CGT Renault est scandalisé.
On est sur deux choses. La première, c'est qui décide que les 10 plus hautes rémunérations peuvent augmenter de 15,3%. Et la deuxième chose que l'on revendique, c'est de cesser des écarts de salaire aussi démesurés.
Et encore, quand on parle de ces 10 plus hauts salaires, cela ne comprend pas la question des dirigeants du COMEX. Comme il est de coutume, la rémunération, par exemple, du nouveau président, Jean-Dominique Senard, fera l'objet d'une communication à part en juin prochain à l'AG des actionnaires et sans consultation des syndicats qui déplorent ne pas y être associés.
On voudrait bien que ces affaires-là, elles cessent. L'après-Ghosn devrait permettre de donner un signal différent, sauf que force est de constater que ce n'est absolument pas le cas.
Concernant ces 10 cadres mieux payés que les autres, en tout cas la direction appelle à ne pas tout mélanger. Ces personnes n'ont pas été grassement payées, assure un porte-parole. Renault a simplement recruté des talents, des designers, des ingénieurs, dont les compétences s'arrachent sur le marché, souvent à prix d'or, ce qui expliquerait l'augmentation de l'enveloppe l'an dernier.
La courbe ascendante des plus hauts salaires chez Renault, une information de Maxime Debs à retrouver sur franceinter.fr. Et puis encore en économie, les salariés d'Ascoval, eux, se rongent les ongles suspendus à la justice. La scierie de Saint-Saulve et ses 280 salariés seront ce matin si le tribunal de grande instance de Strasbourg accorde ou non un nouveau sursis à l'usine.
7h33, c'est ce qui s'appelle avoir un boulevard en politique.
Quand un candidat trouve sur le terrain l'exemple rêvé pour illustrer ses idées, c'était le cas hier pour Marine Le Pen en campagne à Mayotte. Mayotte, département français, confronté, on le sait, à l'émigration massive venue de l'île voisine, les Comores. La présidente du Rassemblement National a choisi de visiter hier un centre de rétention administrative débordé. L'occasion pour elle de dérouler un discours anti-immigration bien rodé. Reportage à Pamandzi de Maxence Lambrec.
La carte de député lui permet de passer les hautes grilles blanches de ce centre de rétention parfaitement entretenu.
Donc là, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire que c'est ici où est suivi les dossiers administratifs des retenus.
La responsable du centre répond aux moindres questions de Marine Le Pen.
Il y a des pourcentages qui sont faits sur le pays d'origine.
Nous avons à peu près 97% de gens d'origine comorienne.
Toujours.
Il faut à peu près 5 heures de Kwassa pour arriver ici si la mer est calme.
À Mayotte, les Français sont devenus minoritaires. L'immigration comorienne est quotidienne et dans ces murs, certains visages deviennent familiers.
Oui, mes fonctionnaires, oui, ça leur arrive fréquemment de reconnaître les personnes.
D'accord.
Oui, ça c'est très fréquent.
Puis, dans un couloir, Marine Le Pen apprend qu'un bateau part chaque midi vers les Comores pour les reconduites à la frontière et le trajet coûte 145 euros par personne, soit plus de 2 millions par an.
On a le sentiment vraiment que ceux qui sont confrontés à cette immigration clandestine et qui sont censés la réguler sont dans la situation de Sisyphe, quoi. C'est à monter le rocher en haut de la colline et puis le rocher redescend, il remonte le rocher redescend, etc. Et chaque jour ainsi ça recommence.
Marine Le Pen repart avec des chiffres, des exemples précis de quoi alimenter ses discours dans les prochaines semaines.
Merci beaucoup.
Amandzi, Maxence Lambrec, France Inter.
Le gouvernement sera-t-il légèrement remanié aujourd'hui comme prévu? La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a été investie hier tête de liste liste de la majorité pour mener les élections de mai prochain. Sa démission prendra effet à l'issue du Conseil des ministres. Direction la Syrie maintenant, qui n'en finit pas d'en finir avec l'État islamique. L'ultime poche de résistance, Baghouz, a bien été conquise ce week-end par les forces démocratiques syriennes. Les combats ont cessé, mais quelques bombardements des avions de la coalition se poursuivent encore sur le terrain pour traquer les derniers irréductibles. Le reportage à Baghouz d'Omar Ouaman.
Les armes se sont tues sur ce bout de terre d'à peine 1 km² labouré par les tranchées, au milieu de tentes de fortune et de véhicules calcinés ou à l'abandon. Mohamed, un combattant arabe de la ville de Shadadi. C'est ici que les djihadistes de Daesh ont fini. Ils vivaient à même le sol, avec leurs femmes et enfants. Ils étaient des milliers. Acculés, les combattants de Daesh et leurs familles ont fait le choix de la reddition, au lieu de tenter de fuir en traversant le fleuve, l'Euphrate, qui borde ce camp informel. Pour Ali, un combattant de l'Alliance arabo-kurde, ce choix aurait été le pire, car ce sont les forces du régime de Bachar el-Assad qui contrôlent l'autre rive. Le régime, il les aurait tous tués, c'est sûr. Il en aurait épargné aucun, j'en suis convaincu à 100%. Le bourdonnement des avions de la coalition vient rappeler que le dernier réduit du groupe État islamique n'est pas totalement tombé, comme en témoigne cette frappe suivie d'une colonne de fumée qui s'élève dans le ciel. Moussa, à l'arrière d'un pick-up, se veut rassurant. Ils se cachent dans les tunnels, c'est pour ça qu'ils bombardent. Ils ne sont plus très nombreux, ils sont terrés. Ces irréductibles de Daesh veulent prolonger les dernières heures de leur califat qui ne se résume plus qu'à quelques tunnels. Baghouz Omar Ouaman, France Inter.
La Syrie encore avec l'ONU qui retrouve grâce aux yeux du régime de Bachar el-Assad. Damas a demandé hier à saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies de la situation du Golan. Ce territoire revendiqué par la Syrie mais sur lequel Donald Trump a reconnu la souveraineté israélienne. A noter dans la région un nouveau tir de roquettes depuis Gaza hier soir en direction de l'État hébreu justement, suivi de représailles immédiates de l'armée israélienne. Le Hamas et le djihad islamique ont dénoncé un tir individuel et s'engagent à respecter la trêve. Uber casse sa tirelire pour s'imposer au Moyen-Orient. Le géant américain va acquérir Karim, la plateforme leader dans la région, le tout pour plus de 3 milliards de dollars.
Il est 7h38 quand les jeux d'argent deviennent une maladie.
On peut y perdre son travail, sa famille, sa santé. L'addiction aux jeux touche 1 200 000 Français. Une pathologie qui sera au menu aujourd'hui d'un congrès sur les addictions, un congrès de professionnels de la santé où sera présenté un nouvel essai thérapeutique pour aider les accros à se défaire de leur obsession. Le reportage de Daniel Messager.
Evelyne a été élevée dans le jeu. Elle jouait le ticket de tiercé pour ses parents, des sommes importantes. Plus tard, elle est devenue dépendante aux jeux à gratter.
Je passais devant le bureau de tabac, j'achetais plusieurs tickets. On a une envie. C'est une pulsion, c'est très puissant. Gratter, gratter, gratter. Et puis en fin de compte, au fur et à mesure que je gratte, que je perds, eh ben, je continue à jouer. Quand j'avais la carte bleue, ça pouvait aller jusqu'à 300, 400 euros la semaine, quoi.
Elle a décidé de suivre une thérapie de groupe pour s'en sortir, mais très peu de dépendants aux jeux d'argent font la démarche d'aller dans une structure de soins. Pour eux, l'hôpital Paul Brousse de Villejuif lance un nouvel essai thérapeutique, des exercices de contrôle du comportement à faire sur son ordinateur. Amandine Luquien, addictologue, responsable de l'unité addiction aux jeux de hasard.
On va proposer aux participants des exercices où à chaque fois ils auront consigne de retenir leurs réponses. Le but donc, c'est retrouver le contrôle de sa pratique de jeu, donc ce qui peut réduire en fait son investissement dans le jeu, que ce soit temporel ou financier, mais aussi parfois à s'en protéger complètement et d'arrêter une pratique.
Ces exercices seront complétés par des entretiens au téléphone avec une neuropsychologue pour se contrôler avant de se retrouver dans des situation dramatique. Evelyne, avant de se faire aider, avait contracté plusieurs milliers d'euros de dettes.
Daniel Messager, chef du service santé et société de France Inter. Les émissions de CO2 ont atteint un niveau sans précédent. Malgré les engagements de l'accord de Paris, les rejets causés par la production d'énergie ont atteint l'an dernier 33 gigatonnes, un record dû à une consommation de charbon sans précédent. Environnement encore avec cette étude espagnole qui nous apprend ce matin que 70% de la population espagnole est affectée par le réchauffement changement climatique, 32 millions de personnes. Depuis 30 ans, les zones au climat semi-aride ont progressé en Espagne de 30 000 km², soit environ 6% du territoire national.
Et on termine, Sébastien, avec un procès atypique, celui de militants anti-pub qui n'en peuvent plus de ce qu'ils appellent des agressions visuelles.
Des panneaux publicitaires omniprésents dans l'espace public, et c'est pour avoir barbouillé des supports numériques, notamment en gare de Lyon à Paris il y a 4 ans, que 7 militants sont poursuivis pour dégradation de biens d'autrui. En première instance, ils avaient été condamnés à 200 euros d'amende. Ils repassent en appel aujourd'hui et comptent bien faire de cette nouvelle audience une tribune pour demander à limiter d'urgence la publicité. Béatrice Duguay.
Christine Traxeller est dessinatrice et décoratrice. Mais ce 2 mai 2015, elle a tagué à la peinture acrylique.
J'ai écrit « La pub tue » en écrivant une vérité sur un mensonge. Je n'ai pas dégradé le panneau, je l'ai regradé, voilà.
Ça m'est arrivé plusieurs fois d'écrire « Liberté de réception » comme je pourrais écrire « Liberté d'opinion ».
Raphaël Calandreau, comédien et déboulonneur.
Avec la publicité, on n'est pas libre de recevoir, surtout avec les panneaux numériques.
Des panneaux agressifs pour des déboulonneurs qui refusent, disent-ils, des injonctions à consommer.
C'est pas possible, des écrans répartis partout dans les gares qui diffusent des bandes annonces de films interdits aux moins de 18 ans, de l'incitation à consommer, de la malbouffe, à aller vite avec sa voiture. Enfin, des chercheurs en neurosciences l'ont établi et c'est de l'ordre de l'unanimité. On ne peut pas y échapper.
Quand on a fait l'action, les personnes qui travaillent dans cette gare nous ont dit que c'était pour eux épuisant. Je crois que c'est aussi ce qu'on dit beaucoup de voyageurs avec lesquels on a discuté.
Ces adeptes de la désobéissance civile non violente qualifient la publicité de bras armés du consumérisme. Et ça n'est plus un combat mineur.
On commence à comprendre à quel point ce combat est un combat écologique de première urgence.
Les déboulonneurs réclament des affiches publicitaires limitées à 50 cm sur 70 ou encore la traque des panneaux irréguliers. Un tiers de ceux installés à Paris seraient illégaux en toute impunité.
Le procès en appel des déboulonneurs, c'est à suivre aujourd'hui.
Merci Sébastien, c'était le journal de Sébastien Legénie.